Salut, je l'ai fait arriver tout à l'heure avec les skieurs. Voilà.
Bonsoir.
Tiens, viens par là un peu.
Voilà.
Voilà. Le soleil est en pleine lumière. Voilà. Merci d'être avec nous. En tout cas, Eddie, on l'a dit hier, mais on le redit ce soir. Et je pense qu'on parle au nom de tous les copains et copines qui sont dans la salle. On est très heureux de vous recevoir et on est très heureux par ta présence aux États généraux LGBTI, de témoigner de toute la solidarité des associations LGBTI françaises pour le combat que vous menez. Donc peut-être avoir quelques éléments sur, sur ce qu'est l'association, pourquoi elle se bat. Vous avez fait l'actualité il y a quelques jours puisque vous avez réussi à faire sortir de prison un jeune homme qui avait été emprisonné. Tu vas nous donner des détails. Voilà. En quoi le régime tunisien aujourd'hui est devenu beaucoup plus dur qu'il ne l'a été avant?
Bon, tout d'abord, je souhaite présenter mes condoléances à nos amis français pour ce qui s'est passé hier, à Paris hier en tant que Tunisien, et pour dire qu'on est tous en train de vivre sous ces attaques terroristes qui font très mal à l'humanité. Donc, on est vraiment, on présente vraiment toutes nos sincères condoléances. Sinon, pour l'association Shams, on a un article de 230 en Tunisie.
Du code pénal,
oui. Qui a été inscrit dans il y a 100 ans presque. C'était dans l'année 1913 en Tunisie, pendant la colonisation française. En fait. Donc, on a cet article qui pénalise l'homosexualité en Tunisie de 3 ans de prison. Donc, l'année dernière, on était dans l'obligation de créer cette association LGBT tunisienne, Shams, pour ouvrir surtout un débat national autour de cet article rétrograde qui est en train d'être trop appliqué en Tunisie, surtout après la révolution en 2011. Voilà, l'association Shams a été créée il y a quelques mois en Tunisie. C'était le 18 mai dernier, après la journée mondiale contre l'homophobie qu'on a célébrée en soirée privée, bien sûr, et on a invité plein de journalistes. Et, vu que notre stratégie principale, c'est la visibilité, vu qu'on voit qu'on ne peut rien faire sans s'afficher et sans dire clairement qu'on est contre l'article 230 et qu'on est contre la montée de l'homophobie ces dernières années. Donc, on a tout fait pour avoir le visa légal et on l'a eu après beaucoup de fatigue avec le gouvernement. Mais voilà, après cette réussite, on a été attaqué un peu de partout. On a été attaqué même des hommes de religion désignés par l'État tunisien, comme le Mufti et le Conseil national islamique, qui disaient que nous sommes des pervers et qu'il fallait nous interdire d'être actifs dans la société civile. Malgré ça, et les poursuites judiciaires du gouvernement qui a voulu nous interdire. On a gagné les deux procès qui étaient lancés contre nous grâce à beaucoup d'avocats, à notre avocat qui nous a aidés à réussir ce procès. Donc voilà, dernièrement, on a commencé une campagne sous le nom de Test Anal jusqu'à quand, et là, en train de suivre. Je mets le pull de cette campagne, en fait. C'était après l'affaire de Marouane, qui est un jeune homme de 21 ans qui a été arrêté en Tunisie à Sousse après avoir trouvé dans son portable des messages intimes avec un homosexuel qui était assassiné il y a quelque temps. Donc il a été attrapé par la police pour meurtre. Ils ont cru que c'était le meurtrier, mais en fait, il a été innocenté, ils ont trouvé le véritable criminel. Mais après, la juge a vu que ce message un peu intime laisse montrer qu'il avait des relations homosexuelles, donc il a été innocenté pour le meurtre, mais inculpé avec l'article 230. Et pour prouver devant la cour qu'il a eu ses relations avec la victime, il a été obligé de passer un test anal et, qui s'est déroulé devant des policiers, avec le médecin légiste bien sûr, mais c'était devant les policiers qui étaient présents qui l'ont obligé à faire ce test. Après ce qui s'est passé, on a commencé une campagne pour manifester contre ce genre de pratique qui n'a aucune base scientifique. D'ailleurs, on a fait pression sur le Conseil national, sur l'Ordre national des médecins tunisiens. Il a sorti un communiqué pour la première fois en Tunisie qui dit que ce genre de test est une torture, vu que la Tunisie a ratifié auparavant la Convention internationale contre la torture. Donc ça, c'est quelque chose de bien qui s'est passé. Enfin, pour ne pas être long, il a été libéré dernièrement sous caution, après tant de pression et de travail avec les avocats, avec les sociétés civiles et avec aussi le meeting qu'on a fait en Tunisie. Et on a choisi de le faire visiblement pour la première fois et on l'a fait ouvert au public. Donc tout le monde avait droit à assister à ce meeting et à comprendre cette affaire. Et c'est pour cette raison que les partis politiques se sont exprimés pour la première fois aussi contre l'article 230 et les tests anneaux. En fait, les partis politiques sont encore minoritaires qui demandent ça, mais au moins on a bougé des petites choses. Et voilà. Sinon, dernièrement, comme je dis, il a été libéré. Et on attend le 10 décembre pour connaître le verdict final pour son affaire. Voilà, c'est ça.
Alors, il y a notre ami Jacques Fortin qui est dans la salle, qui vous donne un coup de main. Et Jacques a une formule très juste, il parle de la situation. Il dit, voilà, en tant que militant, nous en France, on prend des risques dans notre vie pour militer, mais on ne va pas jusqu'à risquer notre vie. Vous, c'est le cas, vous risquez votre vie, vous et les... les autres militants de Shams, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit ok, je risque ma vie, mais je vais quand même militer, je vais quand même être visible alors qu'on peut y perdre la vie? Qu'est-ce qui déclenche ça?
En fait, après chaque apparition médiatique, vu que les médias en Tunisie sautent partout pour faire le buzz et dire et pas. Vu que ce sujet est tabou, donc ça attire les journalistes. Donc on est apparu sur plusieurs médias, écrits et visuels. Et chaque apparition était suivie de menaces, il y a même l'État islamique qui a fait une vidéo avec mon visage et nos noms en disant qu'on va arriver à Tunis et qu'on va vous faire lancer par une montagne. Donc c'est ça les répercussions de notre visibilité, mais voilà, mais il y a même une chaîne nationale, une chaîne tunisienne religieuse, Zitouna TV, qui a fait la dernière fois, il y a 2 semaines ou 3 semaines, une émission de 2 heures qui s'est focalisée pour porter atteinte aux membres de Shams et dire qu'ils ont invité un imam, en fait, un homme de religion, qui a dit qu'il y a trois possibilités pour les membres de Shams. On les brûle, on les jette par une montagne, ou on les lapide. C'était ça pour eux, notre sort en Tunisie. Mais moi, je vois que, avant d'arriver à ce point, on a même des membres qui ont été virés de leurs écoles, qui étaient obligés, par exemple, de ne plus aller à leur faculté ou à leur lycée, car il y a même des professeurs qui sont homophobes et qui disent qu'ils sont pervers, qu'ils sont en train de contaminer la jeunesse dans l'université et les écoles. Donc, c'est surtout ça. On a aussi un membre qui s'appelle Ayou. Il a réalisé un court-métrage contre les tests anneaux. Et le lendemain, il a été menacé. Il a été, en fait, dans un café au capital. Il a été agressé par une bande d'homophobes. Ils ont voulu arracher le piercing de son oreille, mais il a échappé avec ça, vu qu'on était présent, qu'on l'a vu demain. Donc voilà. Historiquement, il n'y a pas eu de droit sans sacrifice. Il n'y a pas eu. Même en Tunisie, par exemple, en parlant des femmes, les femmes n'ont jamais eu leurs droits sans sacrifice. On a beaucoup de femmes qui ont beaucoup sacrifié, ils ont sacrifié leur vie ou leur famille ou leur mari, leurs enfants pour pouvoir rester debout et avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc là, c'est le moment pour nous, en tant que communauté LGBT, de dire en Tunisie qu'on existe et qu'on mérite nos droits, surtout maintenant, après la révolution. Voilà.
Aujourd'hui, pendant les ateliers, on a parlé pas mal, je sais, de convergence des luttes, comment les combats peuvent se rejoindre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je vais parler d'initiative après, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
En fait, en Tunisie, on remarque un vrai déséquilibre dans la société civile. Par exemple, les associations fanatiques en Tunisie reçoivent beaucoup de soutien des autres associations intégristes en Moyen-Orient et par exemple de l'Arabie Saoudite qui s'intègre principalement dans toutes les affaires concernant les libertés et tout. Et c'est ce qui manque aux associations humanitaires en Tunisie et aux associations laïques et surtout LGBT. On rêve pas d'un soutien du Moyen-Orient, donc c'est ça le déséquilibre en fait. C'est le soutien des associations étrangères pour nous est vraiment important pour la moindre chose, c'est la sécurité de membres de Shams, vu qu'on est en train d'être actif dans un milieu très dangereux. C'est surtout ça. Donc le soutien, ça compte beaucoup pour nous, surtout d'associations qui ont assez d'expérience et qu'ils ont une place dans la société civile française.
Alors, ce soir, vous trouverez sur la page Facebook des États généraux LGBTI un texte écrit dans le cadre de ce week-end et on invitera les associations à le signer pour soutenir. Voilà. Peut-être prendre une ou deux questions. S'il y en a dans la salle, voilà, excusez-moi, voilà, une, très bien.
Merci, allô. Ouais, merci beaucoup d'être là avec nous et tout. Je pense que c'est un honneur pour chacune et chacun d'entre nous. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de revenir un peu sur la situation en Tunisie, on sait que là, les révolutions sont des processus et que tout ne change pas du jour au lendemain, évidemment. Et c'est, quand je disais un processus, je trouve que c'est important que tu sois là et que vous soyez là pour nous dire un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que voilà, on ne peut pas calquer ce qui se passe en France, le mouvement français, etc., sur le monde entier. Tu as parlé de la colonisation, je pense que c'est intéressant de revenir aussi là-dessus. Il y a tous les exemples, on a eu Christine Boutin qui parlait de l'Inde il y a un ou deux ans. Et il y a des liens en fait qui se font. Et du coup, je pense que c'est très intéressant que justement, nous aussi, de notre côté, on fasse ces liens-là. Donc je remercie aussi les organisatrices et organisateurs des États généraux. Et du coup, comment vous vous positionnez face à ces changements liés à la révolution? Et comment vous faites en sorte que ça aille dans le bon sens? Comment vous militez au jour le jour en Tunisie? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a énormément de gens qui reviennent en disant ben, « au final, c'était pas un peu mieux avant, avec Ben Ali, etc. » Bon, c'est un truc que je réfute totalement. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu une blague à la télé qui a été faite sur Ben Ali, où ils disent « Oui, bah, c'était quoi ?» C'était Jean-Luc, c'était un pédophile, mais au moins, il battait ses enfants, mais au moins, il ne mettait pas les coudes sur la table. Et c'est un peu ça. Il y a un moment où la révolution, je pense qu'elle a été nécessaire. Si elle a eu lieu, c'est qu'il y en a eu un besoin. Et c'est comment vous gérez ça après?
En fait, pour répondre à ça, je dirais qu'avant la révolution, c'était quasiment interdit de penser pour faire une association LGBT, vu qu'il n'y avait pas assez de liberté pour ça. Mais malgré ça, il y a eu quelques actions avant la révolution. Il y a eu, par exemple, quelques magazines, mais qui n'ont pas continué, quelques magazines LGBT, mais qui n'ont pas continué leur travail à cause de manque de moyens et tout, et des menaces et ce qui s'est passé avant. Mais ça n'a pas marché avant la révolution. Donc les militants qui sont maintenant LGBT étaient principalement dans des partis politiques révolutionnaires ou bien des indépendants, des blogueurs. On a des militants LGBT qui ont participé qui ont très bien participé à la révolution. C'est pas, par exemple, si on entre sur YouTube, il y a une vidéo qui montre tous les militants LGBT en Tunisie qui sont sortis pendant la révolution pour répondre à ceux qui disent où on était avant. Et parce qu'en Tunisie, c'est la fameuse question, c'est où étais-tu avant le 14 janvier? Donc on a répondu à ça et voilà. Sinon après la révolution, dès le début en fait, on est sorti pour rappeler pas Shams n'avait pas encore un visa en 2010 et en 2011. La société civile en général et les LGBT sont sortis au début pour demander à une constituante qui dit clairement que la Tunisie est un pays laïque, mais ça n'a pas marché aussi, vu que les élections ont été gagnées par un parti islamique. Donc après ça, on a eu l'idée de créer une association LGBT, et vu la nouvelle loi des associations, on a pu trouver une façon de créer Shams. Et voilà, nous sommes là maintenant. On a une liberté de dire ce qu'on veut, on a des libertés d'agir sur le terrain, mais tout en se trouvant dans un milieu assez dangereux. On peut dire ce qu'on veut, mais on peut subir ce qu'ils veulent aussi. Donc c'est ça ce qui se passe en Tunisie.
J'ai une deuxième question ici.
Donc merci pour ce témoignage. Et effectivement, dans la troisième table ronde, il y avait la question de la solidarité. Et je pense que chaque individu ici, en tant qu'individu, mais aussi en tant que représentant associatif, doit se poser la question de se dire qu'effectivement, nous, on n'a pas acquis tous les droits dont on a envie, dont on a surtout besoin pour être à égalité avec la société civile en France, mais ailleurs, c'est peut-être parfois encore pire. Et donc du coup, donc là visiblement, juste signer un texte, a priori, je vulgarise, pourrait vous aider. Mais je pense que nous, on se pose peut-être aussi parfois la question de comment montrer notre solidarité envers les pays qui sont moins bien lotis que nous. Je pense par exemple à une action que nous on avait fait lors des JO par rapport à la Russie. On a fait une action, mais après, est-ce que ça a eu un réel impact ? Je ne sais pas. Et du coup, la question se pose, comment on peut faire, nous, pour vous apporter un soutien quelconque, et comment on peut faire pour vous aider là-dedans, parce qu'il faut. Et je pense qu'au niveau associatif, parfois, on a peut-être un peu peur de défendre aussi les droits dans les pays étrangers, parce qu'on ne sait pas non plus comment faire pour que ça ait un impact positif, en tout cas pour vous.
J'ai discuté de ça avec mes amis français Jacques Fortin et Frédéric, le président d'ADEOS, et il m'a communiqué une bonne stratégie qui peut être praticable avec les associations françaises. Par exemple, il a proposé le texte qui va être signé pour le soutien de Chams. Il a dit aussi quand... Voilà, Frédéric. Il m'a dit aussi qu'on pourrait, par exemple, faire une action commune pour la journée internationale contre l'homophobie et passer un message à la Tunisie pour dire que c'est une affaire urgente et qu'on doit abroger les années qui viennent l'article 230 et tous les articles discriminatoires en Tunisie. En fait, à part l'article 230, j'ai parlé déjà de l'article 26 qui interdit aux transsexuels de vivre dans notre pays, vu que si on trouve un homme habillé en femme en Tunisie, il risque 6 mois de prison. Donc, c'est ça. Donc le soutien pourra être des actions en collaboration pour des événements spéciaux comme le 17 mai. Ça pourra être de ce sort, mais voilà, c'est ça. Peut-être que Frédéric pourra mieux expliquer la stratégie qu'on a discutée hier, que c'était un peu flou.
Moi, je vais vous interroger en partie en tant qu'amoureuse des cultures du Maghreb et des cultures arabes, et en tant que personne qui désirait que le monde LGBT en Europe ne soit pas uniquement tributaire de la culture LGBT américaine, et s'ouvre un petit peu sur d'autres cultures. Vous avez dans les années 50, dans les années 60, en Tunisie, un chanteur qui s'appelle Ali Riahi, qui est un espèce de scandale queer évident, un chanteur extrêmement efféminé, extrêmement apprécié du public. Encore aujourd'hui, il fait partie des artistes que le public aime. Pourquoi pas vous servir un petit peu de cette image? Il y a quand même pas mal de vidéos d'Ali Riahi. C'était avant David Bowie, il était beaucoup plus maquillé que David Bowie. Pourquoi pas vous en servir pour dire, voilà, ça existait avant. Vous voyez, ce monde n'est pas traditionnellement homophobe, et même peut-être à des époques où c'était plus dur en Occident, on avait des artistes parfaitement scandaleux et parfaitement admirés du public. Voilà.
En fait, en Tunisie, on a plusieurs on a eu et on a jusqu'à maintenant plusieurs artistes qui sont homosexuels et tout, mais malheureusement ils refusent toujours de s'afficher. Donc ça c'est le cas pour le moment. Mais avant, la Tunisie, à mon avis, était plus tolérante vis-à-vis de l'homosexualité, vu dans les années 70 et dans les années 80, il y avait une communauté, une grande communauté LGBT en Tunisie. Il y avait surtout les transsexuels en Tunisie, mais là, ils sont tous presque partis du pays vers d'autres lieux où ils peuvent vivre. Ils peuvent bien vivre. Donc, c'est ça en fait le problème avec les artistes et les hommes connus en Tunisie en général, c'est leur peur d'être affichés et d'être considérés comme homosexuels. On voudrait bien travailler sur ça, mais ça va. Bon, on pourra travailler sur les artistes qui ont été les artistes des années par exemple 50, 60. Vu que tout le monde déjà les connaissait et tout, mais pour les artistes qui sont maintenant sur la scène, on peut pas les forcer directement à avouer leur homosexualité, ça doit venir de leur plein gré. Et je pense que c'est ce qui devra se passer, vu que sans visibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra rien avoir. En fait, on a un projet qui va se baser sur un magazine LGBT en Tunisie qui va peut-être à chaque mois faire quelques articles sur les stars qu'a connues la Tunisie qui étaient homosexuelles, et même les intellectuels, même les acteurs aussi, il n'y a pas que les chanteurs en Tunisie. Bon. Ça, c'est une bonne chose qu'on pourra faire au futur, et à mon avis, on pourra le faire. Surtout aussi avec, on a aussi un projet de cinéma, de ciné-club LGBT, donc avec les documentaires qu'il y a et tout, on pourra les utiliser pour montrer au monde qu'en Tunisie, il y avait bien des homosexuels et qu'on les respectait pour ce qu'ils sont. Bon. Pour répondre à la question tout à l'heure à propos de la stratégie.
Ouais. La stratégie, elle n'est pas simple, elle n'est pas évidente. Elle est en deux temps. D'abord, l'immédiat. L'immédiat a déjà commencé, hein, avant même ces états généraux, puisque des contacts ont été pris pour afficher un minimum de soutien en France d'hommes politiques. Sénateur d'Avignon, l'un des sénateurs d'Avignon qu'on a rencontré. La semaine prochaine était programmée la venue officielle de l'association Chems à l'Assemblée nationale, avec 3-4 députés dans un premier temps, avec un soutien également officiel sur le principe qui était prévu. L'essentiel pour Chems, c'est que plus ils ont de soutien public en France, plus grande est sa protection en Tunisie, aussi simple que ça. La seule protection qu'ils avaient ces derniers temps, c'était le ministre de la Justice qui avait autorisé la création de la SOS, qui publiquement a émis le fait de dépénaliser l'homosexualité en France en étant favorable à l'abrogation de ce fameux article 230 du code pénal tunisien. 8 jours après, il a été limogé par le président. Et donc, résultat, il y a. Voilà. Et le peu de soutien des députés tunisiens, c'est du bout des lèvres. Ils se comptent sur les mains d'une main. Et encore, il ne faut pas faire trop de bruit. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment Tunisie qui va avoir beaucoup de soutien, hormis la société, quand même, civile, Ligue des droits de l'homme, etc., ceux qui sont à l'origine de la nouvelle constitution tunisienne. Mais ça va être très vite limité. Et au quotidien, ils sont, harcelés. Hein. Le moindre événement qu'ils font Ils ont, à la sortie de l'événement, les policiers qui demandent la liste des invités. Enfin, je ne sais pas si tu l'as raconté, mais bon, voilà. C'est au quotidien, les pneus crevés de la personne qui est passée sur l'interview d'une radio, et quand c'est les pneus crevés, on s'en sort pas trop mal. Voilà, donc c'est une question de temps. C'est pour ça qu'il est important et urgent en France d'afficher notre soutien à travers CHAMS, mais également aux associations de minorités sexuelles en Tunisie. On a préparé une motion qui vous sera présentée. On voulait la mettre en ligne ce soir, et elle devait être sur le Facebook des États généraux. Bon, elle n'est pas encore validée. Je l'ai travaillée toute la journée. Jacques, notre vieil temple, l'a validée. Erwan l'a validée. Donc on est à trois. Il faut aussi que CHAMS la relise. On va mettre ça en ligne. Elle ne va pas poser vraiment de difficultés pour une validation. Je pense que si on n'est pas d'accord sur cette motion-là, il faut être clair, on ne sera jamais d'accord. Il faut arrêter l'humilité. Ce n'est pas possible. Donc voilà, elle est suffisamment essentielle à l'existence même de CHAMS aujourd'hui pour qu'elle soit votée en l'état sans aucun retrait, sans aucun doute, sans aucun problème. Voilà, là-dessus je suis très confiant. Dès que cette motion va être affichée, on s'adresse officiellement en tant qu'ensemble du mouvement LGBT français, au gouvernement français, au gouvernement tunisien, à l'ensemble des ONG de lutte des droits de l'homme en France, en Europe et dans le monde. Et on va la faire circuler, on va la diffuser. Et on va l'utiliser. Il y a des idées qui nous semblent importantes. Il est intolérable que des personnes publiques, religieuses ou non, appellent au meurtre des homosexuels en Tunisie, sans qu'il y ait une moindre réaction du gouvernement français, ne serait-ce que pour interdire de territoire, de l'espace Schengen, ces personnes-là qui appellent publiquement au meurtre des homosexuels. Donc il y a des actions à faire, il faut qu'ils nous communiquent la liste de ces différentes personnes avec les éléments de preuve. Ils ont naturellement sous le coude des vidéos, des choses comme ça. On va s'adresser au ministère de l'Intérieur, il est hors de question que les homosexuels en France prennent le moindre risque. Aussi, donc surtout dans l'état actuel je dirais de la France, et il est nécessaire d'exiger l'exclusion de notre territoire français, de ces personnes-là. Voilà. Quel que soit le niveau, entre guillemets, hiérarchique dans l'État tunisien qu'ils peuvent avoir. Enfin, on va être systématique, en tout cas dans la demande. Voilà. Et on va l'exiger, on peut l'exiger d'autant plus et avec force que le contexte, malheureusement, aujourd'hui, que vous le savez, peut nous le permettre. Voilà, politiquement en tout cas. Donc ça sera déjà une première victoire. Ça veut dire qu'on va faire fermer le clapet pour parler clairement à tous ces homophobes en Tunisie, parce que s'ils veulent venir en Europe, dans l'espace Schengen ou en France, il va falloir qu'ils fassent gaffe à deux fois ce qu'ils racontent, y compris sur les radios publiques, etc. Il y a aussi quelques lueurs d'espoir, je ne sais pas si tu en as parlé, mais l'équivalent du CSA en Tunisie remis les pendules en l'heure à quelques journalistes et quelques propos qui ont été tenus publiquement sur une télévision, hein, je crois que c'était ça. Voilà, et le CSA tunisien, très ambitieux, très volontaire, beaucoup plus peut-être que le CSA français en tout cas, alors même que le droit tunisien ne protège pas par rapport à de l'homophobie, dans son communiqué, il parle clairement d'homophobie, alors qu'en droit, même l'État tunisien ne reconnaît pas encore aujourd'hui la protection liée à l'homophobie. Voilà. Donc c'est une première victoire. On est véritablement à ce qu'on appelle une bascule aujourd'hui au niveau de la Tunisie. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Il y a une fenêtre de tir pour agir qui est très courte. On a grosso modo 6 mois devant nous. Et pas plus à mon sens. Voilà. Donc les parapluies politiques, les parapluies publics. L'association CHAMS a aussi été reçue par Madame le maire d'Avignon hier soir, avant la cérémonie officielle d'ouverture. Elle est prête à afficher publiquement le soutien. etc. Il y aura également des mesures d'exfiltration peut-être de certains militants du bureau exécutif de Shams qui risquent leur vie, qui sont à la rue aujourd'hui, il faut le savoir. Enfin, je ne sais pas si tu en as parlé, mais il y en a quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main, ces gens-là, il faut les aider, ils ont combattu. Ce qui est très très important de comprendre, c'est que le combat qu'ils mènent en Tunisie, ils sont en première ligne. Il faut bien comprendre que Shams est en première ligne. Les secondes lignes, ce sont nous, associations françaises LGBT en France. Si Shams gagne, si Shams avance sur la Tunisie, c'est un formidable d'abord espoir pour les autres associations LGBT du Maghreb, le Maroc, la Turquie, qui ont contacté Shams et qui agréablement ont été surpris de l'ampleur que ça prenait sur la Tunisie, qui voulait faire pareil. Mais ça nous aidera, nous aussi, en France, par rapport à la problématique liée à l'islam et la religion. Il n'y a pas beaucoup, malheureusement, et on le sait tous et on le déplore, de musulmans militants dans nos associations LGBT. Il y a 5 millions de musulmans, paraît-il, en France, j'aimerais bien les voir, dans nos assos, entre guillemets. Et à un moment donné, il va falloir aussi mettre le doigt là où ça fait peut-être mal, mettre les mots là où il faut, de façon à ce que on n'accepte peut-être plus ce qui était accepté. On a beaucoup trop, à mon sens, accepté le fait que les religions parlent d'homosexualité. Il est temps que les associations LGBT apprennent à parler aussi sur l'homophobie religieuse. Voilà. Et ça va être une grande conséquence, à mon sens, dans les prochaines années. Voilà. Et avec le soutien des associations LGBT musulmanes. Voilà. Merci.
Je propose de remercier Eddy. Parce que vous n'avez pas la reprise. D'autres questions. Ce texte, vous le retrouvez en ligne, comme on l'a dit dès ce soir, sur la page Facebook des États généraux LGBTI. Et on remercie également Frédéric Hay de ADO, Centre LGBT de Poitou-Charentes, pour son intervention. Est-ce que Alix Béranger est prête ou c'est juste le coup d'après? Dites-moi. Christelle? Bon, bah, oui, Alix. Je vous propose d'accueillir sur le plateau Alix Béranger. Et juste le temps que Alix